Voilà, on en était au chapitre 15, donc vous pouvez ouvrir vos bibles parce que je pense qu'on va lire un petit peu quelques textes. Au chapitre 15 de 1 Samuel. Voilà. Et j'avais dit la dernière fois, si j'avais un titre à donner à ce chapitre, ce ne serait pas, comme dit ma Bible, la nouvelle faute de Saül. C'est un peu négatif. Mais la souffrance de l'Éternel Dieu, la souffrance de Samuel devant la chute de Saül. Et je crois que c'est important d'avoir cette façon de voir le texte, parce que sinon, c'est très négatif. Si on lit le chapitre 15 en restant du côté humain, c'est tout à fait démoralisant. Et franchement, ça fait peur. C'est comme une descente aux enfers, comme disent les journalistes. C'est l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge d'un homme qui avait été choisi de Dieu, béni de Dieu, et qui va glisser de plus en plus bas. C'est horrible. Et le procédé littéraire qui est utilisé là est très, très dur. C'est vraiment, on marche par étapes, hein. Alors, première faute, deuxième, il retire la royauté, enfin, pour ses enfants. Deuxième, la royauté pour lui. Troisième, on va voir, voilà, il lui retire son esprit. Enfin, voilà, c'est horrible, c'est une chute qui fait peur. Donc, si je vous laisse avec une histoire comme ça, on en est là, attention, c'est un avertissement solennel, ne faites pas comme Saül, évidemment. C'est un petit peu triste et un peu négatif. Et moi, je voudrais aussi qu'on voit cette histoire, qui est une histoire vraie, comme quelque chose de très proche de nous, un peu comme une vue d'avion, mais avec le regard de Dieu. Avec le regard de Dieu. C'est-à-dire, on prend un petit peu de recul, au lieu de regarder, il tombe encore une marche plus bas et encore une marche plus bas. On utilise le regard de Dieu et en se rappelant ce verset de Jérémie 31, versets 3 et 4, qui m'a parlé d'ailleurs à ce sujet, où il dit, l'Éternel parle à Israël, qui, Israël aussi, hein, a souvent suivi le même chemin que Saül. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité et je te rebâtirai. Il parle après la destruction de Jérusalem et tu seras rebâti, Israël joli. J'aime bien cette traduction. Malgré toutes les bêtises d'Israël, malgré ses infidélités, malgré son idolâtrie, malgré ses chutes répétées, voilà comment Dieu voit son peuple qu'il a choisi. Et voilà comment il voit chacun de nous, malgré nos chutes, malgré nos bêtises, nos petits accès d'hypocrisie comme Saül ou notre orgueil. Enfin voilà. Le cœur de Dieu est toujours ouvert pour nous. Et ça, il faut s'en rappeler. Ça ne veut pas dire qu'il nous donne raison et qu'il dit « tu mens, c'est bien, tu es orgueilleux, c'est parfait, tu fais des bêtises, ben c'est formidable ». Non, pas du tout. Mais « je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Je te rebâtirai ». Et ça, c'est le cœur de Dieu pour chacun de nous. Chaque fois qu'on fait des bêtises, « je te rebâtirai et tu seras rebâti, Israël joli ». Donc, il y a vraiment un amour pour chacune de ces créatures. Et on le sent envers Saül aussi. Donc au lieu de regarder, ouh, comme c'est affreux, Saül tombe de plus en plus bas, on va essayer de voir comment le cœur de Dieu va s'exprimer et quelle souffrance c'est pour Dieu de voir un de ses enfants aller de mal en pire. Chaque fois que nous, on descend la pente, chaque fois qu'on désobéit à Dieu, chaque fois que, ouh, on descend, ça nous arrive hein, de descendre la pente, notre vie n'est pas toujours comme ça. Elle est plus souvent en feuille de température, comme je dis, hein, tout, tout, tout. Globalement, il faut que ça monte quand même. Hein. Mais voilà, eh bien, le cœur de Dieu est touché par notre attitude. Et il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut pas avoir l'impression que c'est un Dieu insensible qui nous regarde d'en haut et qui nous dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que tu fais comme bêtise, etc. » Ce n'est pas du tout ça. Au chapitre 15, on voit déjà quelque chose de précieux. Dès le début, Samuel va se positionner clairement par rapport à Saül. Donc le prophète Samuel vient voir Saül, et il sent le besoin de lui rappeler d'où il vient, qui il est et qui lui parle au nom de Dieu. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Dans le même chapitre, on voit Samuel parler deux fois à Saül et les deux fois, il remet ça. Il insiste sur qui est Dieu, qui est Saül, qui est Samuel, quel est leur rôle et quelle est la mission. Et ça m'a surpris. Avant de donner des ordres, il lui rappelle qui il est. Et c'est une rencontre assez solennelle. Hein. Samuel dit à Saül, c'est moi que le Seigneur a envoyé pour te conférer l'onction, l'onction royale, afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit le Seigneur, puis il va lui donner sa mission. Alors, c'est moi que le Seigneur a envoyé. Samuel établit les choses très clairement. Le Seigneur Dieu est celui qui décide. Ça, c'est clair hein, dans le texte. C'est lui qui a envoyé Samuel et c'est lui le propriétaire du peuple d'Israël, afin que tu sois roi sur son peuple. Il établit bien les choses des débuts. T'as beau être roi, ok, Saül, hein. T'as été un roi, ok, mais c'est son peuple, c'est pas le tien. Là, c'est important. Et je crois que chaque fois qu'on sert le Seigneur, quel que soit le travail qu'il nous a demandé, il faut toujours se rappeler que c'est son travail, c'est son œuvre. Hein. Et c'est pas toujours facile hein, qu'on s'occupe d'un groupe d'école du dimanche ou d'une grande église, ou peu importe, c'est son peuple, ça ne nous appartient pas. C'est lui le berger, mais en plus il est le propriétaire du troupeau. Hein. Et là il l'établit dès le début, le Seigneur Dieu est celui qui décide, il m'a envoyé moi Samuel, mais c'est lui le propriétaire du peuple. Rappelle-toi, autrement dit, Saül, rappelle-toi de ça. Hein. Deuxièmement, Samuel, lui, il est fidèle et obéissant à Dieu. Il lui rappelle que c'est lui qui a donné l'onction royale de la part de Dieu. C'est une grosse responsabilité. Et j'imagine la souffrance de Samuel. Déjà là, Saül avait déjà fait une grosse bêtise. Son fils ne pouvait plus être roi. Donc la souffrance était là dans le cœur de Samuel. Samuel a été choisi par Dieu lui-même pour apporter les paroles au roi. Il lui dit bien, c'est moi que le Seigneur a envoyé. Autrement dit, moi devant toi, je suis celui qui parle au nom de Dieu. Donc tu ferais mieux de m'écouter en quelque sorte. Et puis troisièmement, il lui dit, tu es roi, mais le fait que tu sois roi, ce n'est pas ton choix. Tu n'as pas travaillé pour être roi, tu n'as pas fait toutes sortes de choses. Le choix, c'était le choix de Dieu. Bien sûr, à la base, c'était le peuple qui l'avait demandé, mais Dieu avait choisi cet homme-là, selon les critères du peuple, bien sûr. Et le peuple ne lui appartient pas, il reçoit les ordres de Dieu et il est donc supposé, un vilain mot, obéir. Très très vilain mot, surtout en France, obéir. Donc les choses sont claires dès le début, cette petite phrase elle nous dit tout ça. Hein. C'est moi que le Seigneur a envoyé pour te conférer l'onction, afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël, écoute ce que dit le Seigneur. Bon, les choses sont bien posées, s'il ne comprend pas, c'est qu'il ne veut pas. Malheureusement, il ne va pas trop vouloir. Et puis après, il lui donne sa mission. Alors, elle est curieuse, cette mission. Et là, elle pose des problèmes, surtout aux plus jeunes. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'avais 6 ans. Et ces textes-là, comment ils m'embêtaient. Mais ils m'embêtaient vraiment. Et on va voir pourquoi. Voilà ce qu'il dit. Ainsi parle le Seigneur, Yahvé, l'Éternel des armées. J'ai décidé de faire rendre des comptes à Amalek pour tout ce qu'il a fait à Israël, quand il s'est mis sur son chemin, tandis que celui-ci montait d'Égypte. Va maintenant. Ça tourne, ça perd pas de temps. Hein. Attaque Amalek, frappe d'anathème tout ce qui lui appartient. Alors, suivant les traductions, vous avez des vous par interdit, etc. Moi, je préfère frappe d'anathème. Ça veut dire vraiment, c'est une malédiction. Hein. Tu mettras à mort. Ouh, alors là, c'est là que ça coince. Tu mettras à mort hommes, femmes, enfants et nourrissons. Bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Ouh, alors là, un texte comme ça, ça pose problème. Hein. 21e siècle. Ça pose problème. Va maintenant, attaque Amalek et frappe d'anathème. C'est-à-dire vraiment, c'est la malédiction absolue. On tue tout et tout le monde. Ouh. Alors, on va déjà revenir à qui est Amalek avant de voir ça. Donc, c'est dans Deutéronome 25, verset 17. Il y a un texte très intéressant qui dit « Souviens-toi, c'est Dieu qui parle, souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait en chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte. » Donc, vous rappelez la sortie d'Égypte, hein? Tous les chariots, les bœufs, les ânes, les familles qui étaient pris vraiment. Il y avait les Égyptiens qui leur couraient derrière, donc il fallait vite qu'ils se sauvent. Alors, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, comment il est venu à ta rencontre en chemin? Ils n'avaient pas besoin de ça, ils avaient déjà les Égyptiens et la mer devant, les Égyptiens derrière. Et en plus, Amalek vient à la rencontre pour attaquer ton arrière-garde. Ah ben ça, c'est pas sympa, parce qu'à l'arrière-garde, c'était les enfants, les gens âgés, etc. Tous ceux qui se traînaient en dernier. Alors que tu étais fatigué, épuisé, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'accordera le repos en te délivrant de tous les ennemis qui t'entourent dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, afin que tu en prennes possession, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie pas. L'ordre de Dieu était clair, ces gens, au moment où vous étiez en danger, vous étiez affaiblis, vous aviez peur, vous étiez épuisés dans le désert, ces gens-là en ont profité pour attaquer l'arrière-garde, les malades, les personnes âgées, etc., des gens sans pitié. Alors, il y a à peu près trois siècles et demi peut-être entre ces deux textes. Ça veut dire que quelque part, Dieu avait laissé le temps à ce peuple pour se repentir. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On va revenir là-dessus. Donc Dieu voit que Saül, le grand guerrier, est prêt à accomplir cette mission. Le peuple aussi est prêt. Ça fait des siècles que ça dure. Amalek n'avait pas bougé. Après la désobéissance de Saül lors de la dernière bataille, en fait, Dieu va offrir à Saül une nouvelle occasion de prouver son respect et son obéissance. Et ce n'est pas un piège. Il ne faut pas voir ça comme un piège. Saül pouvait choisir d'obéir. Il pouvait. Samuel aurait été prêt à rester à ses côtés parce que bien souvent, rappelez-vous Déborah, le général a dit « Ah ben si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas me battre. » Et il aurait pu faire pareil, dire « Viens avec moi parce que dis donc, expliquer aux soldats qu'on ne va pas prendre de butin, ça va être un peu chaud. » Il pouvait emmener Samuel avec lui, il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc ce n'est pas un piège, il pouvait choisir d'obéir. Et Samuel aurait été prêt absolument à rester à ses côtés pour confirmer les ordres au peuple. Saül avait été puni pour sa désobéissance, il ne fonderait pas de dynastie royale, mais son règne à lui n'était pas atteint. Il pouvait en quelque sorte repartir à zéro. Et c'est là qu'on voit la bonté de Dieu. Il a donné une occasion à Saül de repartir à zéro. Après la bêtise qu'il avait faite, les bêtises, parce qu'il en avait fait pas mal, il lui donne l'occasion de repartir à zéro. Il lui refait confiance. Il lui dit, écoute, il y a une mission qui traînait depuis longtemps envers ce peuple. Eh bien, t'es un bon soldat, t'es un bon stratège, je te confie ça. Et quelque part, moi, j'imagine la joie de Samuel. Tu vois, Saül, Dieu m'avait envoyé pour te nommer roi. Malgré ce qui s'est passé, il te fait encore confiance. Écoute donc la nouvelle mission qu'il te confie. Vas-y, obéis. Vas-y maintenant, attaque, frappe. Frappe tout d'anathème, dévoue tout par interdit. Extermine tout et tout le monde comme si c'était un sacrifice à Dieu. C'est ça le sens. Comme si c'était un sacrifice à Dieu. Montre-lui que tu peux tout lui donner. Que tes victoires ne sont pas motivées par le gain ou par l'orgueil, mais par l'obéissance aux ordres. Et une obéissance à des ordres qui datent de Josué, c'est quand même vieux. Je dis, franchement, il y a entre 3 et 4 siècles. La volonté de protéger et de libérer le peuple des pillards sans avoir d'intérêt personnel. Ah ! Donc là, il a une occasion formidable de montrer son obéissance et son désintéressement. Samuel devait être content. Cette fois, il va s'en sortir. Dieu nous donne une deuxième chance. Et quand il nous donne une deuxième chance comme ça, il faut absolument la saisir. Pas hésiter à se repentir, à implorer son aide, à dépendre de lui et à obéir. Car souvent dans ce cas, Dieu peut revenir sur son jugement, comme il l'a fait pour Ninive. Les Ninivites, des gens d'une cruauté folle. Mais quand ils se sont repentis, Dieu a décidé de ne plus les détruire. Parce que chaque fois que Dieu envoie un message de destruction, chaque fois qu'il envoie un message de punition, etc., c'est dans l'intention de faire changer le cœur. Ce n'est pas du tout dans l'intention de punir. Et ça, on le voit dans la Bible à plusieurs reprises. Et le meilleur exemple, c'est quand même Ninive. Franchement, Ninive ou Daesh, c'est à peu près la même chose. Avec ceci en plus qu'ils ne cherchaient pas à tuer, mais surtout à faire souffrir les gens avant de les tuer. Et vous avez dans les livres d'histoire, parce que la Bible n'est pas un conte de fées, vous avez dans les livres d'histoire des récits épouvantables de ce qu'ils faisaient subir aux populations pour les faire souffrir le plus longtemps possible. Les Ninivites étaient des monstres. Et pourtant, quand ils se sont repentis, sincèrement repentis, Dieu a refusé de détruire la ville de Ninive. Elle existe encore, vous l'avez entendu aux nouvelles, il y a quelques mois, il parlait de Ninive, qui était, je crois, pris par Daesh d'ailleurs, je crois. Voilà. L'histoire est toujours là. Alors, l'idée, c'est que Dieu peut revenir de son jugement. Si vous sentez quelquefois dans votre cœur que Dieu n'est pas content après vous pour telle ou telle raison, ben c'est pas compliqué, vous affligez pas, la solution est simple, allez voir le Seigneur, demandez-lui pardon, repentez-vous, tournez-vous vers lui, faites-lui confiance, obéissez, et le jugement s'en ira. Le jugement n'est pas là pour vous écraser, il est là pour vous aider à revenir vers lui. Et là, il va retirer son jugement. S'il l'a fait pour Ninive, il peut le faire pour nous, hein. C'est quand même important. Alors, là, il y a un gros problème. Lors des victoires, normalement, les soldats se partagent le butin, les animaux, les biens et les richesses, les esclaves aussi. Rappelez-vous Daniel, hein, quand il y a eu la guerre, Daniel a été emmené avec les jeunes, parce qu'on prenait les jeunes de votre âge, là, les 12 à 20 ans, en gros, c'était un butin formidable. C'était une puissance de travail, soit intellectuellement, alors il travaillait à la cour du roi, c'était le cas de Daniel, soit physiquement. C'était de la main-d'œuvre gratuite, et en plus, on pouvait les former, leur apprendre la langue. Pour le cas de Daniel, c'était la vie politique, la comptabilité, l'astronomie, enfin tout ce qu'ils apprenaient à ce temps-là. Voilà. Donc, c'était un butin formidable. Et là, qu'est-ce que Dieu demande ? Ça, c'était dur pour les soldats. On reviendra sur le côté un peu épouvantable. Cette fois-ci, ils ne devaient rien rapporter. Alors, on va faire une guerre, pas pour la gloire, pour la gloire de Dieu. Mais on ne devait rien emmener. Or, souvent, les soldats n'étaient pas payés. Ils se payaient avec le butin. Donc, ils avaient intérêt à gagner la victoire. Ça les motivait, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas grand-chose. Et ils emmenaient le butin, les animaux, l'or, l'argent, etc. Et ils se partageaient ça. Cette fois-ci, Dieu est clair, vous ne devez rien prendre. Tout sera brûlé, détruit. Y compris les animaux. Pas question d'emmener des esclaves non plus. C'est clair. Quand quelque chose était dévoué par interdit ou bien sous l'anathème, comme on le voit ici, frappé d'anathème, ça voulait dire on ne garde rien. Tout est maudit. Aïe ! Pas même question de rôtir quelques bêtes pour manger. Parce qu'il fallait manger quand on faisait la guerre aussi. Ça veut dire qu'ils étaient obligés d'emmener leur casserole. Ça ne devait pas être évident, hein ? Ils étaient chargés d'exprimer la colère et la justice de Dieu envers un peuple qui, depuis des siècles, je dis bien des siècles, pillait, volait, tuait pour vivre et haïssait Israël au point de l'attaquer dans son moment le plus faible. Alors, qui étaient ces gens ? Peut-être intéressant. C'était des descendants d'Ésaü, frère de Jacob. C'était un peuple errant qui rayonnait autour de ses campements pour piller. Sa vie, c'était piller. Piller, voler, détruire, tuer. Et ils ont fait ça pendant des siècles, toujours hostiles envers Israël. Alors, là, on se pose tous la grosse question, comment Dieu pouvait-il permettre qu'on tue un peuple entier, enfants compris ? Alors, on n'a pas toutes les réponses, ça reste une question, hein, mais on a quelques éléments de réponse. D'abord, Dieu a patienté quelques siècles, et la méchanceté de ce peuple n'a fait que grandir. Enfin, quand on est capable d'attaquer l'arrière-garde d'un peuple épuisé, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de cœur. Et les enfants n'auraient pas eu d'autre choix que de grandir dans les mêmes voies. Hélas. Deuxièmement, à cette époque, la notion d'individualisme n'existait pas. Et donc pour nous, c'est extrêmement difficile, 3000 ans après, à comprendre que l'individu n'existait pas. Tout était communautaire. C'était très très fort. Si un membre de la communauté était touché, tous sont concernés. Donc un membre de la communauté peut apporter la honte à tout le monde, et de même, la gloire. C'est la communauté entière. La haine d'Israël était transmise dès le plus jeune âge comme un trait communautaire. Ça faisait, on mange, on boit, on fait la guerre et on déteste Israël. Et on peut le tuer les membres du peuple quand on veut. Donc ça explique, c'était transmis de génération en génération depuis plusieurs siècles. Et puis, il faut se rappeler que là, Jésus n'était pas encore venu, on est sous la loi. Le Saint-Esprit ne vient pas encore habiter dans les cœurs. Et quand on lit un texte comme ça, on peut mesurer ce que le christianisme a apporté comme changement. On en parlait une fois avec le directeur de l'école. Si Jésus n'était pas venu, on en serait encore là. Et souvent, on prend un petit peu comme... Bon, c'est un dû, hein. Tout le côté liberté, tout le côté respect de l'individu, etc. Hein, on pense que c'est les grandes idées des philosophes, mais non. C'est la venue de Jésus qui a amené ça. Parce que prenez tous les peuples de la terre sans Jésus. On a des philosophies plus ou moins pacifistes, on a des petites choses, mais rien comme ce que Jésus a apporté. Et donc on peut mesurer, quand on voit cette histoire, ce que Jésus a apporté. Tu aimeras tes ennemis, etc. On en est loin là. Hein? Donc on a une époque où on est encore sous la loi, Jésus n'est pas encore venu. Et là il s'agissait d'un châtiment définitif, il s'agissait d'éradiquer un peuple. Alors on n'est pas toujours absolument certain, suivant les commentateurs, mais il semblerait qu'il y en ait un qui ait échappé et qui a créé une descendance. Et pour ceux qui connaissent bien le livre d'Esther, Aman était un Agagite, donc un descendant du roi Agag. Et qu'est-ce qu'il a fait de toute sa vie, cette espèce de bonhomme ? Haïr Israël, haïr les Juifs et tout faire pour les tuer et les exterminer. Vous voyez que c'était ancré dans leur ADN. Leur vie, c'était piller, voler, détruire, attaquer les plus faibles et éliminer Israël de la planète. Bon, c'est pas d'aujourd'hui. On a parlé de ce problème pendant le week-end dernier. Donc le châtiment devait être définitif, éradiquer un peuple entier. Alors là, il faut quand même dire que même dans l'Ancien Testament, Dieu ne faisait pas ça le cœur léger. Et là, on va lire Jérémie 18:8 parce que je crois que c'est quand même important. C'était un problème pour moi pendant des années, cette volonté de tuer tout le monde dans un peuple à cette époque. Jérémie 18:8. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de déraciner, de démolir et de faire disparaître. Tiens, tiens. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais faire. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il peut parler parfois de détruire, de déraciner, de démolir, mais si cette nation revient du mal qu'elle a fait, c'est-à-dire si elle se repent, si elle demande pardon, si elle change de comportement, je renonce au mal que je pensais lui faire. Et tantôt, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir, planter, mais si cette nation fait ce qui me déplaît sans m'écouter, je renonce au bien que j'avais parlé de lui faire. Donc, on n'est pas en face d'un Dieu froid qui ordonne comme ça d'éliminer un peuple, de gaieté de cœur. Le texte aussi que je vais lire à ce propos, c'est celui de Ninive, puisqu'on en a parlé. Tout à la fin de Jonas, vous avez un verset très très important. Jonas est furieux parce qu'il voit que Ninive n'est pas détruite. Hein, c'est imaginer Daesh en pire. Et puis on souhaite tous qu'ils disparaissent quelque part, hein, secrètement, parce qu'ils font beaucoup de mal. Et on est un petit peu là comme Jonas. Hein, on regarde, ah là là, si seulement Daesh pouvait disparaître, avec tout le mal qu'ils font. Et imaginez Jonas en face de Ninive. Il attend que ça, un bon tremblement de terre. Je suis sûre qu'il devait écouter tous les bruits en disant ça va commencer à trembler là. Là, ça tremble, ça va tomber. Non, il ne se passe rien. Et du coup, il est tellement furieux, il demande à mourir en disant « Mieux vaut pour moi mourir que vivre ». Et Dieu parle à Jonas et lui dit « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» C'était un arbuste qui l'abritait et qui vient de mourir. Il répondit « Je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. » Ben, il n'est pas gêné, lui. Hein, il dit carrément ce qu'il pense, c'est bien. Le Seigneur, ça ne le gêne pas. Il dit « Toi, tu as pitié. » Alors, la traduction exacte, j'ai demandé à quelqu'un qui fait de l'hébreu, c'est « Tu regrettes de perdre. » Tu regrettes de perdre ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Autrement dit, tu es complètement enragé parce que tu as perdu l'arbuste qui t'abritait et tu es désolé de l'avoir perdu parce que ça t'arrangeait. Et moi, ah Dieu, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Ils se sont repentis. Donc Dieu a changé. Comme il l'a dit dans sa parole, quand quelqu'un demande pardon, peu importe ce qu'il a fait, si c'est un pardon sincère, Dieu pardonne. Ah ! Donc, Amalek n'a jamais voulu changer. Il va être détruit. Bon, on n'est pas autant du christianisme. C'est quand même dur à prendre pour nous, on n'a pas toutes les réponses, mais je vous ai donné quelques éléments quand même pour voir que voilà, la solution pour eux, puisqu'ils ne s'étaient pas repentis, ça avait été l'élimination. Parce que Dieu ne fait pas le cœur léger, puisque même à Ninive, Dieu, quelque part, il a craqué devant leur repentance. Donc, c'est très important, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Donc, pour cette guerre, Saül va obéir, hein. Il va attaquer Amalek, donc il bat le rappel des troupes, il passe tout le monde en revue. C'est un vrai soldat, là, c'est un vrai général maintenant. Hein. C'est pas comme au début où il se cachait avec les bagages. Hein. Là, il est parti. Hein. Il y avait 200 000 fantassins, waouh, il a une sacrée armée, hein. Et 10 000 de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek, mit une embuscade dans l'Oued, et il dit, okay, alors, ça c'est important, voilà, il a fait son plan de bataille, sa stratégie est établie, il est efficace, il a une grande armée, il met une embuscade, et il va remporter la victoire. Alors, il a même un bon geste, vous voyez, il va dire aux Caïnites, allez, écartez-vous, descendez d'Amalek, parce que les Caïnites étaient mélangés avec la population d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui, car vous, vous avez agi avec fidélité envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. Les Caïnites s'écartèrent donc d'Amalek. Alors voyez, d'un sens, nous on est choqués parce qu'ils vont détruire même les enfants et les animaux. D'un autre sens, ils vont tout faire pour épargner ce peuple qui était mélangé aux Amalécites et qui, lui, n'avait pas ces sentiments de haine, les mêmes sentiments de haine. Donc ça, bien, bravo, on a envie de dire bravo Saül. C'est bien de veiller à ne pas pénaliser les innocents. Vraiment bien. Alors, il obéit, il met son embuscade, et chose curieuse, Dieu va lui accorder la victoire malgré sa désobéissance précédente. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit, mais il ne le pénalise pas davantage. Tu ne transmettras pas ta royauté, mais ok. Il fait la guerre, il obéit, c'est magnifique. Il gagne. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Chour, qui est en face de l'Égypte. Alors jusque-là, formidable. Il a obéi. Mais là, ça va se gâter. Première phrase qui va poser problème, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Ben pourquoi ? Tu avais dit, tout le monde doit être tué. Le peuple entier doit disparaître. Il a eu des centaines d'années pour se repentir, il n'a jamais voulu. Il a pillé, volé, dérobé, assassiné pendant des siècles. Et on aurait pu dire il a épargné les nourrissons. Ça aurait déjà été plus logique. Hein. Non. Il épargne le roi. Il prie vivant Amalek. Alors cette phrase en dit long. Croyez pas que c'est un sentiment humanitaire qui poussait Saül. À cette époque, on épargnait un roi ou un prince pour deux raisons principales. Hein ? En tirer une rançon, bravo, d'une manière ou d'une autre, soit par la famille, un trésor caché, ils avaient toujours des trésors cachés. Hein. Voilà, en tirer de l'argent. Ou bien alors, deuxième chose, pourquoi on faisait prisonnier les rois ? Ah, les Césars, ils étaient doués avec ça. Allez, Samuel, Jean-Samuel, je suis sûr que tu sais. Il y a un côté public dans ce que je vais dire, oui, mais pas forcément l'exécution. Là, oui, voilà, le triomphe. Lors du défilé de la victoire, on promenait le roi les mains liées. Ça en jetait, ça, quand même. Hein. Regardez comme je suis un bon général. J'ai gagné la victoire et ces rois qui vous faisaient peur, qui assassinaient, qui pillaient, qui donnaient l'ordre de tout saccager, ils sont là, les mains liées. C'est moi. Vous avez vu, là ? C'est moi. C'est ça, hein, le triomphe. Hein je crois que si on regarde un peu les sculptures sur l'Arc de Triomphe, il y a de ça, et sur d'autres endroits aussi. Hein. Donc, pour que le peuple visualise la supériorité de son armée, la puissance de son roi, l'importance du triomphe, on traînait le roi derrière. Ce défilé était souvent représenté sur des colonnes, des portes ou des monuments royaux, à la gloire, non, pas de Dieu, du roi régnant. Et ça, c'était la coutume dans tous les peuples. Alors bon, si vous regardez un peu dans les livres d'histoire, vous allez en voir. Hein. Les Égyptiens l'ont fait, tous les peuples, les Assyriens, les Perses. C'était vraiment la gloire de montrer les rois, les mains liées, qui étaient promenés dans le défilé de la victoire. Donc, Saül avait une intention en gardant Agag vivant. Ce n'est pas un hasard. Ça peut être la richesse, la puissance, la gloire personnelle ou les trois ensemble. Aïe, aïe, aïe. Dieu avait dit, tu ne garderas rien. Là, on a un gros problème. Bon, alors, on continue le texte. Et ça se gâte. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Ah non, il frappa d'anathème tout le peuple et le passa au fil de l'épée. Il a obéi. Et vous allez voir comment le texte montre le mélange. Il a fait ça mal, mais il a fait tout ça bien. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que ce qu'il y avait de meilleur dans le petit bétail et le gros bétail. Les bêtes de seconde portée, les jeunes béliers, tout ce qu'il y avait de bon. Oh bah tiens, ils se sont gardés tout ce qui était bon. Ils ne voulurent pas frapper tout cela d'anathème. Ils ne voulurent pas. C'est pas un hasard. Et ils ne frappèrent d'anathème que ce qui était méprisable et chétif. Aïe, 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 aïe. Ils ont fait un tri. Ils ne voulurent pas et ils frappèrent d'anathème tout ce qui était... Vous voyez ? Alors, Saül et le peuple vont épargner tout ce qu'il y avait de meilleur dans le petit bétail et le gros bétail, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas frapper tout cela d'anathème. Dieu avait clairement demandé de rien garder. Alors, pourquoi Saül et le peuple décident de ne pas obéir ? Alors, comme j'ai dit, à cette époque, les armées reçoivent une très petite solde ou trois fois rien. Donc, ils se payaient avec le bulletin. Donc, c'était quand même un gros sacrifice de demander à l'armée de renoncer à ça. On va gagner la victoire, les enfants. On le fait pour le Seigneur, mais rien pour nous. Ça, c'était un sacrifice. Hein. Ce n'était pas facile. Ils pensent qu'on peut se débrouiller autrement. Alors Dieu a demandé de tout supprimer, mais moi je pense. Ça vous arrive jamais ? La Bible dit, mais moi je pense. C'est dangereux. Quand vous commencez à raisonner comme ça, vous dites-vous bien que vous êtes sur une pente, un beau toboggan, mais un grand toboggan. Bien, là comme on aime là les enfants. Là. Grand toboggan, puis vous ne pouvez plus vous arrêter. Et oui, quand on commence à dire, mais moi je pense... Ils oublient d'ailleurs quelque chose d'important. On n'a pas le droit de sacrifier à Dieu des animaux frappés d'anathème. Et toc. Donc déjà, ils le savent. Hein. Croyez pas qu'ils sont innocents. Il faut rappeler que dans beaucoup de sacrifices aussi, le peuple pouvait manger une partie de l'animal. Ben tiens. Donc ils ont trouvé le truc. On va sacrifier les plus beaux animaux à Dieu. Et puis en général, au cours du sacrifice, il y avait un repas. Et ils mangeaient une partie du sacrifice. Donc, on va quand même avoir notre popote. On va quand même manger. Ah, que c'est astucieux. On va veiller à nos intérêts. Il est clair qu'obéir était un sacrifice trop important pour eux. Autrement dit, j'obéis que si ça ne me coûte pas trop. C'est bien humain, ça. Hein. J'aime la Bible. Oh, j'aime la Bible. C'est tellement, tellement réaliste. Vous savez, j'aime pas ces livres religieux qui peignent tout en doré. Oh, il n'avait pas de défaut, cet homme, il était extraordinaire, etc. La Bible, elle raconte tout comme c'est. Et on se retrouve, 3000 ans après, on se dit, oh, oh, je me retrouve. J'obéis que si ça ne me coûte pas trop. Pourtant, la loi précisait que ce que l'on offrait à l'Éternel devait être en parfait état. Les premiers fruits, les prémices des récoltes, le meilleur. David dira, je ne donnerai pas au Seigneur mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ah. On peut s'arrêter un peu là-dessus. Alors justement, j'aurais pu le donner au moment des offrandes. Et se poser la question, qu'est-ce qui a du prix à mes yeux et qu'est-ce qu'il m'est difficile d'offrir à Dieu ? Parce que ce qui était difficile pour eux d'offrir à Dieu, c'était l'obéissance de tout sacrifier et de ne profiter de rien. Pour une fois, on se battait pour la gloire de Dieu, point. Et sans aucun intérêt personnel. Alors, d'un peu dans le désordre, je dirais quelque chose qui est difficile. Je pense aux jeunes, notre jeunesse. Et combien j'ai entendu de fois des gens dire « Je servirai le Seigneur quand je serai vieux. » Parce que je n'aurai rien d'autre à faire à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est un peu ça. Hein. On veut bien frapper d'anathème tout ce qui est misérable et chétif. On veut bien consacrer nos dernières années à Dieu, parce que de toute façon, on ne pourra rien faire d'autre. Bon. Aïe, aïe, aïe. Si vous avez lu Tartuffe, je crois que c'est un des gros arguments dans Tartuffe, d'ailleurs. Entre parenthèses, regardez. Nos enfants. Ah, c'est ce qu'on a de plus précieux. Je crois qu'on peut les offrir à Dieu en priant énormément pour qu'ils puissent le servir le Seigneur. Parce que c'est sympa de dire oh, mes enfants sont gentils, c'est merveilleux, mais moi j'ai envie de les retrouver au ciel. Absolument. Et donc, je vais prier pour que dans leurs études, dans leur travail, dans leurs priorités, ils soient encouragés à mettre du temps à part pour servir Dieu. C'est un sacrifice. Je sais que mes parents ont sacrifié, ils n'étaient pas riches, mais ils ont beaucoup sacrifié pour que je puisse me former dans des camps, dans des camps d'évangélisation chrétiens, etc. Et ça coûtait de l'argent. Quand on n'en a pas beaucoup, c'était un sacrifice, j'en suis consciente. Mais ils ont beaucoup investi dans la formation chrétienne. Bon, j'avais une église qui était sympa, mais qui était un peu renfermée sur elle-même. Donc, ils m'envoyaient à la Ligue pour la lecture de la Bible, ils m'envoyaient en Angleterre, etc. pour me former. J'ai appris des tas de choses. Donc, c'est aussi un sacrifice pour les parents. De ne pas seulement penser à la carrière des enfants, de ne pas seulement penser à leur bien-être immédiat, mais à leur formation chrétienne. C'est un sacrifice. Les aider à poser des priorités. Et parfois, c'est pénible. Hein. Il y a des parents dans cette église qui font des kilomètres pour amener les enfants en groupe de jeunes, etc. Et les responsables de jeunes sont conscients de ce que ça coûte en temps, en énergie, aussi en argent. Mais c'est un investissement à long terme. Comme me disait un de mes amis, quand j'avais les enfants petits, les trois, et lui, il faisait ses études, enfin, il avait terminé ses études de cardiologue à Paris. Et je disais, oh là là, tu sais, oh là là, les enfants, ça prend du temps, c'est ça. Il disait, mais t'en fais pas, Michel, c'est un investissement à long terme. Oui, c'est un investissement à long terme. Mais c'est un investissement, et tout investissement, ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, mais ça vaut la peine. Donc, ça fait partie des sacrifices que nous, en tant que parents, on fait. Aider les enfants à se former, aider les enfants à bien respecter leurs priorités. Où est Dieu dans leur vie? Le Père Noël de service, qu'on va prier quand ça va mal, c'est mieux que rien, c'est dommage. Ou vraiment le maître qu'on sert avec amour et avec dynamisme. Parce que sans dynamisme, la vie chrétienne, c'est pas marrant. Hein, la vie chrétienne, c'est bien s'il y a du dynamisme derrière, s'il y a la volonté de servir Dieu, de faire des choses passionnantes pour Dieu. Là, ça vaut le coup. Mais si on fait ça en traînant les pieds, par devoir, parce que mes parents y veulent, ça c'est horrible. Non, aidons les enfants à avoir des priorités dynamiques. Hein, des choses qui leur plaisent, qui vont les pousser vers l'extérieur, qui vont les encourager à servir le Seigneur. Ça, c'est un sacrifice. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, ça suppose pas mal de petites choses dans la vie courante qui nous coûtent. Et il y a un sacrifice qui nous coûte beaucoup, c'est notre temps. Surtout en région parisienne. Hein. J'ai pas le temps. J'ai pas assez de temps. Notre temps, c'est une denrée rare et chère. On n'a que 24 heures par jour. Et puis, il se trouve que la télé, les ordinateurs, ça réduit énormément le temps disponible. Alors, on a été 2 mois sans Internet. Donc, je pouvais même pas regarder mes emails, c'est bien. J'avais beaucoup plus de temps. J'ai réalisé ça, je disais à André, oh là là, j'avais plus de temps libre. Et pourtant, je fais pas grand-chose, moi, sur l'ordinateur, vous le savez. Mais quand même, c'est vite fait. Hein. Regarder les nouvelles à la BBC, répondre aux quelques emails, et puis une heure est passée. Bon, notre temps pour le Seigneur. Lire la Bible, prier, écouter Dieu. Certaines personnes peuvent même parfois donner plus facilement de l'argent que du temps. Et le fait que vous êtes là ce matin, je sais que c'est un gros sacrifice de temps pour beaucoup. Il y en a qui ont plein de boulot à la maison, il y en a qui ont toutes sortes de préoccupations et qui vont quand même réserver ce temps pour le Seigneur le dimanche matin. Et croyez-moi, le Seigneur y est sensible. Croyez pas qu'il s'en fiche et que c'est un dû et que voilà, j'espère bien qu'ils seront là dimanche matin quand même. Hein. Non, il n'est pas comme ça. Il apprécie parce qu'il sait qu'on dispose de pas beaucoup de temps. Hein. Et je pense aux jeunes, moi aussi, aux jeunes qui n'ont pas de matinée pour dormir. Donc pendant les 6 ou 7 semaines, hein, c'est un sacré sacrifice de venir le dimanche matin. Mais croyez-moi, Dieu y est sensible. Mettre ses priorités au bon endroit, ça compte pour lui aussi. Hein. Ça compte. Croyez pas que c'est un sacrifice. Alors souvent, les parents, ils s'en rendent pas compte. Hein. Mais moi, je vous comprends. Moi, je me souviens parce que c'était pareil. Hein. Il n'y avait pas de grasse matinée. Non, parce que moi, le dimanche, les filles, elles pouvaient dormir. Et puis moi, voilà, j'allais au culte. Mais bon, j'étais habituée à mettre mes priorités au bon endroit. Et ça aide tellement dans la vie. Ça aide tellement dans la vie. Et le Seigneur le sait, il le voit et il en tient compte. Ne croyez pas qu'il est insensible à ça. Ah oh, oui, mais bon, je le fais parce que je suis obligée. Oh, bien sûr, quand on est jeune, on le fait souvent parce qu'on est obligé. Et alors, bon. Mais ça vous aide, et je pense que ça aide à mettre ses priorités dans le bon sens. Et le Seigneur est sensible quand on le fait passer en premier. Parce que c'est une chose de chanter « Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'aime, mais laisse-moi dormir le dimanche matin. » Bon, l'adoration, elle en prend un coup, là. Bon. Ah, voyez ce que je veux dire. C'est un choix qui va marquer notre préférence pour le Seigneur, avant notre confort. On peut aussi citer l'énergie, l'argent, les biens. Et là, je ne peux pas résister à cette histoire qui m'a complètement écœurée. Cette notion de donner à Dieu des trucs qui ne nous coûtent rien, c'est horrible. On m'a raconté cette histoire vraie. Des gens, je ne dirais pas dans quel pays, qui gardaient leurs sachets de thé, une fois les avoir utilisés, bien sûr. Ils les essoraient, ils les mettaient dans un truc près du radiateur, ils les faisaient sécher pour les missions. Je m'en suis permise. Pour les missions. Et ils envoyaient les sachets de thé séchés, enfin, utilisés et séchés. Hein. C'est horrible. Comment est-ce qu'on considère le Seigneur et l'œuvre du Seigneur quand on fait des choses comme ça, hein? David qui disait, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Mais sachets de thé utilisés, non. Chaque fois que je mets des sachets de thé à la poubelle, j'y pense, je me dis, quand je pense, c'est pas beau. Hein, mais ça m'a choquée. Je me souviens aussi d'une réflexion d'une chrétienne qui par ailleurs était bien engagée avec le Seigneur. Je ne comprends toujours pas comment elle pouvait dire quelque chose comme ça. Des gens lui avaient donné de la layette pour son bébé. Et je la vois encore poser ça sur la table et dire, elle n'était pas particulièrement belle, mais peu importe, c'est la réflexion qui m'a choquée. Oh, c'est moche, on va l'envoyer aux missions. Ça non plus, je m'en suis permise. C'est des choses qui sont restées dans ma tête. Je n'offrirai pas au Seigneur des choses qui ne me coûtent rien. Voilà. Et puis l'histoire, celle-là, je pense qu'elle est vraie, mais elle est assez amusante. La maman qui avait donné à sa petite fille 2 pièces de 5 francs. Vous savez, autrefois, on avait les pièces 5 francs, elles étaient belles. Moi, j'aimais bien les collectionner. Elles étaient jolies, elles étaient grandes et bien reluisantes. Elles étaient magnifiques. Ça faisait même pas 1 euro, non, mais bon, voilà. Je les aimais bien, ces pièces de 5 francs. Et la maman avait donné à sa petite fille 2 pièces de 5 francs, une pour l'offrande à l'église, puis une pour toi. Et la petite fille, elle va à l'église, elle court pour pas être en retard, elle va à l'école du dimanche. Mince, il y a une pièce qui roule dans le caniveau. Oh mince, la pièce de l'église est tombée dans le caniveau. Voilà. Bon, voyez ce que je veux dire. Alors, la moralité pour nous, c'est ne gardons pas pour les seigneurs ce qui est méprisable et chétif. Alors qu'on n'hésite pas à donner le meilleur de nos biens, de notre temps, de notre énergie à beaucoup d'autres choses, beaucoup, beaucoup moins importantes, surtout au vu de l'éternité. Donc c'est un peu un sujet de réflexion. Alors l'autre question qu'on peut se demander, c'est est-ce que nous aussi, on a des agagues dans notre vie ? Recherche de la gloire, du succès à tout prix, même au prix de la désobéissance ? Saül pouvait dire haut et fort, voyez la victoire que Dieu m'a donnée. C'est pour la gloire de Dieu que je tiens ce roi en esclavage. C'est vrai, quelque part. C'est pour la gloire de Dieu que je vais faire ce triomphe et que je vais me balader avec ce roi prisonnier. C'est pas faux, mais c'est pas vrai. On peut parfois justifier notre désobéissance par le souci de la gloire de Dieu. Et ça, je l'ai souvent entendu. Pas dans notre église, je pense pas trop en tout cas. Mais j'ai souvent entendu ça dans le passé. Je ne devrais pas faire des compromis avec ces gens, mais c'est pour pouvoir leur témoigner de ma foi. Je n'aurais pas dû faire ou dire ça, mais c'est pour le Seigneur. Ah oui? Les choses ne sont pas toujours très claires. Hein? Jésus va jusqu'à dire que des malades guéris et des démons chassés ne remplacent pas l'obéissance. Et Dieu dira un jour, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. L'obéissance numéro 1. Ça fait réfléchir. Moi, ça me fait très peur, ce texte, à chaque fois. Je me dis, waouh. Même tout ce qu'on fait pour le Seigneur, soi-disant pour sa gloire, si on en retire un avantage pour nous, gloire, succès, etc., on risque de s'entendre dire ça. Donc attention, il faut être très prudent avec la gloire de Dieu. Hein. On n'y touche pas. Et là, Saül a vraiment gaffé. Dire, oh oui, je l'ai pris prisonnier pour la gloire de Dieu. Mon œil, c'était pour aller se promener avec le roi prisonnier. Le problème avec Dieu, c'est qu'il voit tout. et qu'il sait tout, même nos motivations secrètes. On ne peut pas manipuler Dieu. Ah, c'est embêtant, hein ? Lui faire croire qu'on fait les choses pour lui faire plaisir, alors qu'on désobéit, etc. Et Dieu va donc parler directement à Samuel. Aïe, 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 ça c'est moche. Hein. Ah là, c'est moche. Parce que Dieu, il sait, et il va parler directement au prophète. Et on arrive à ce texte qui dit « La parole du Seigneur parvint à Samuel. Je regrette d'avoir investi Saül de la royauté, car il s'est détourné de moi et il n'a pas exécuté mes paroles. » C'est clair. Alors, là, il y a un petit problème. Quand Dieu dit « Je regrette d'avoir investi », alors certaines traductions disent « Je me repens d'eux hein. ». Alors, le mot hébreu, alors je n'ai pas fait l'hébreu, mais je vous transmets ce que j'ai lu. Le mot hébreu est Naham, et qui est utilisé une première fois en Genèse 6:6, quand Dieu dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Hein? Donc, il y a une dimension de souffrance, ça je rejoins ce que je disais au début, dans ce mot-là. Ce n'est pas « Oh, je regrette d'avoir fait ça, bon, je passe à autre chose », mais il y a une dimension de souffrance dans le mot utilisé. Nombre 23:19 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole ?» Alors vous allez me dire bah « Ça ne va pas. » D'un sens, là, on vient de dire « Dieu regrette. » Il souffre de cette situation, il regrette. Et là, dans Nombre, on dit « Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis, en fait, hein, pour se repentir et changer d'avis. » Ah, alors c'est ces fameuses tensions dont on parle souvent. Hein, et j'ai beaucoup aimé le message de, je crois que c'était Nicolas Guillet, je crois, sur les tensions. On vit dans la vie chrétienne des tensions comme ça. D'une part, Dieu dit, je ne change pas d'avis, moi. Et puis, d'autre part, là, il dit, ben, je regrette d'avoir investi Saül de la royauté. Alors, c'est quoi ? Alors, le fait est que Dieu réagit de manière dynamique aux réactions de sa création. Il peut changer d'avis en fonction de la réaction des humains. Donc, je vous ai lu le passage de Jérémie. Hein. En fonction de la réaction des humains. Soit il va suspendre un châtiment annoncé, soit il va suspendre une bénédiction promise, suivant la réaction des humains, de nos réactions. Dieu avait appelé Saül, il l'avait nommé roi, mais Saül n'a pas voulu se plier aux conditions que Dieu avait énoncées, c'est-à-dire obéir à sa parole. Du coup, ça va changer l'attitude de Dieu. Et ça, c'est formidable, parce qu'il y a en Dieu une fidélité et une continuité qui nous rassurent. C'est pas, il ne va pas changer comme ça, parce que le vent a soufflé. Mais ce n'est pas non plus un Dieu indifférent qui réagit froidement à ce qui se passe chez les humains. J'ai pris cette décision et ce sera comme ça. Vous avez vu dans la Bible, on parle souvent des rois perses. Voilà, je reviens à l'histoire. Hein. Les rois perses avaient une loi qui disait qu'une fois que le roi avait dit quelque chose, il ne pouvait plus revenir dessus. Ah, c'était un problème, ça a été un problème au temps d'Esther, ça a été un problème au temps de Daniel. C'était les rois perses. C'est vérifié historiquement. Eh bien, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas froidement. Voilà, j'ai dit que ce serait comme ça et ce sera comme ça. On l'a vu à Ninive. On l'a vu au temps de Noé. On le voit là avec Saül. Il a d'un côté une fidélité, une continuité qui est extraordinaire, mais il n'est pas indifférent à ce qui se passe sur Terre. Et il réagit, et pas froidement à ce qui se passe, mais il réagit en fonction des réactions des humains. Et il souffre de ce qui le déçoit, chaque fois qu'il est obligé de sévir. Parce que son but, chaque fois qu'il dit « je vais faire ça et ça pour punir », il espère la repentance. Parce qu'il souffre. Le mot est clair. Hein. Et s'il y a repentance, il peut retirer son châtiment. Mais il y a toujours cette interaction. Dieu n'est pas comme ces rois perses. Ils ont dit « c'est fini, c'est magique hein. ». Non. Il dit les choses en espérant que nous, on va changer. Il est souple par rapport à l'humain. Et ça, c'est formidable. C'est pas, il y a cette interaction, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, mais je le ressens fortement, il y a cette collaboration entre nous et Dieu. Allez, on essaie de marcher dans l'empreinte de ses pas, puis bon, pouf, on va à côté. Ah, bah, si tu continues dans cette voie-là, tu vas avoir des gros problèmes. Alors, on revient vite dans l'empreinte de ses pas. Et voilà. Les gros problèmes, ils n'arrivent pas parce qu'il nous protège, mais il nous prévient. Et si on continue, on prend de la distance, on prend de la distance. Et là, il ne peut pas revenir sur sa parole. Il a dit, si tu prends ce chemin-là. Et pourquoi il ne peut pas revenir sur sa parole ? Parce que ce n'est pas un principe. C'est une vérité, c'est pas pareil. Parce qu'il sait très bien que si on prend une voie détournée, on va avoir que des ennuis. C'est comme quand si vous dites à un enfant, si tu marches dans les ronces, tu vas avoir des épines partout sur les jambes. C'est pas un principe, hein ? C'est la vérité. Lui, il se dit, oh, comment il sait ça ? Essaye, tu vas voir. Hein ? Et c'est ça, Dieu sait ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas l'idée de nous commander sur des principes, mais simplement, ça va nous faire du mal. Se détourner de Dieu, ça va nous faire du mal. Désobéir à Dieu, ça va nous faire du mal. Ça va nous abîmer. Et ça, je suis ferme là-dessus. Il faut arrêter de croire que Dieu est là pour nous punir et nous attend au coin du bois. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Non, si je sors sans parapluie, sous la pluie battante, je serai mouillée. Ce n'est pas une malédiction, c'est une réalité. Il n'y a pas ce côté, oh là là, si tu désobéis à Dieu, qu'est-ce que tu vas prendre ? Non ! Mais Dieu sait très bien que si je prends tel type de chemin, si je fais tel mauvais choix, je vais aboutir à un mauvais endroit. C'est tout. C'est la vérité. Ce n'est pas une question de principe comme ça, dans l'air. Et c'est d'ailleurs pour ça que le diable prend pour proie les jeunes. Parce que entre, on va dire 13-14 ans et 25 ans, les jeunes prennent pratiquement toutes les décisions qu'ils vont devoir assumer pour le reste de leur vie. Je travaille à l'école où je ne travaille pas, donc j'aurai un bon boulot, j'en aurai pas. Je choisis mes amis, je choisis mes conjoints, je choisis l'endroit où je vais vivre, etc. Donc, il met la gomme sur cette période-là. Pourquoi on prie beaucoup pour nos jeunes ? Parce que ce sont des cibles faciles. Ils doivent gérer des problèmes extrêmement lourds, à un âge où ce n'est pas forcément facile de gérer des problèmes lourds. Je ne sais même pas si à 80 ans, on aurait la sagesse de faire les bons choix qu'eux, ils doivent faire entre 15 et 25 ans. C'est pour ça qu'il faut prier. Et ce n'est pas leur crier dessus ou les décourager. Il faut rudement prier. Parce qu'en fait, ils prennent des décisions qui vont décider s'ils marchent bien dans la bénédiction du Seigneur ou s'ils vont s'écoper des ronces et des épines pour le reste de leur vie. Donc attention, ce n'est pas une question de malédiction, ce n'est pas une question de « oh là là, qu'est-ce que tu vas prendre si tu te détournes du Seigneur ?» C'est les choix que tu fais aujourd'hui, entre 12 et 25 ans, eh ben, ça va déterminer le reste de ta vie. Tu vas écoper. Si tu as des épines dans les jambes tout le reste de ta vie, tu auras des épines dans les jambes tout le reste de ta vie, point. Parce que tout dépend où tu vas marcher. Et il ne faut pas le prendre comme une malédiction. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Surtout pas. Mais c'est des choix graves et c'est des choix qui vont déterminer le cours de la vie. Ceci étant, Dieu pardonne, Dieu restaure, heureusement. Mais prions pour nos jeunes, parce que je pense que le diable sait aussi, et il fait des pressions monumentales pour essayer de leur faire prendre les mauvaises décisions. Et ça peut être des choses graves, ça peut être des choses qui semblent anodines, bon, prendre un choix d'études qui ne convient pas, ou un choix de boulot dans lequel il ne se sent pas bien, toute sa vie il va devoir encaisser un boulot qu'il déteste, bon voilà. Donc prions, et essayons de ne pas trop les assommer, mais prions pour eux, parce qu'ils ont vraiment besoin de l'aide du Seigneur. Donc Dieu réagit de manière dynamique aux réactions des hommes, ne l'oublions jamais, ce n'est pas un Dieu d'un seul bloc de granit là, qui ne bouge pas, il a cette souplesse, parce qu'il collabore avec nous. Alors, attention aussi aux prophéties, je le dis toujours, mais je ne le dirai peut-être jamais assez, elles ne sont pas magiques. Leur accomplissement dépend de nos réactions et de nos comportements et de ce qu'on est prêt à changer dans nos vies. Hein? Ça, c'est pareil. Hein? Dieu peut donner des paroles. Regardez Saül, tu seras roi. Ah bah oui, ça s'est mal fini parce qu'il a désobéi. Donc attention, les paroles de Dieu sont souvent conditionnelles. Donc Dieu n'est pas un être insensible ni un automate. Il réagit affectivement à nos agissements. Et c'est pour ça que je disais au début, Dieu souffre devant Saül. Il lui avait pourtant laissé une chance de changer d'attitude, là, avec les Amalécites. Il lui avait donné une chance de réussir la mission. C'était un bon soldat, c'était un bon stratège, il avait une bonne armée, il avait la foi. Il dit, ça y est, là, il va réussir. Vous imaginez Dieu qui est là, oh là là, là je lui ai donné une mission, c'est clair, il n'y a pas de complications. Il va y aller, il va gagner. C'est bien parti, il va se reprendre. Cette nouvelle désobéissance va mettre un terme à la patience de Dieu à son égard, et c'est dommage. Et la réaction de Samuel, on va terminer avec elle. La réaction de Samuel en fut fâché. Alors, ils disent bouleversé ou profondément ému, suivant les traductions. Alors là, le pauvre Samuel, vous savez qu'il s'était attaché à Saül. Hein. Ça se voit dans les textes. Il s'était attaché à ce jeune roi qui était timide au début et qui a grandi. Il avait mis énormément d'espoir en Saül. Il l'avait vu grandir, prendre confiance en lui. Il l'avait guidé dans ses premiers pas de roi. Il l'avait aidé à s'imposer, à se battre, à gagner les victoires. Il avait vu la bénédiction de Dieu sur les batailles qu'il avait entreprises. Et voilà, il en avait. Hein. Il avait vraiment sauvé le peuple à plusieurs reprises. Il l'avait vu sauver et délivrer le peuple. Vous vous souvenez quand les ennemis avaient décidé de crever un œil à chaque homme du pays. Enfin, voilà. Et il venait de voir encore la bataille gagnée sur Amalek. Je suis sûre qu'il admirait son courage et sa vaillance. Quand même à l'époque, hein. C'est important chez les Romains, on le voit. Hein. Les soldats, les généraux, on aimait leur courage, leur vaillance. Il avait été choisi par Dieu, lui Samuel, pour le oindre roi. En plus, pour Samuel, mettez-vous à sa place. La monarchie avait représenté un énorme sacrifice. Ce n'était pas dans ses convictions. Et puis, il avait sacrifié son rôle de juge. C'est lui qui dirigeait le peuple avant. Il lui avait tout donné à Saül. Il avait sacrifié sa place de juge pour quelqu'un qui allait être mis de côté. Comment Israël allait être dirigé maintenant? Quel témoignage ça va donner au reste, au peuple, aux alentours? Et la gloire de Dieu là-dedans. Vous voyez tout ce qui tournait dans la tête de Samuel? Fâché, bouleversé, ému. Il y avait tout ça mélangé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, nous, en bons humains français, je ne sais pas si on aurait couru voir Saül et puis on lui aurait secoué les puces, quelque chose de bien. Mais Samuel était un homme de Dieu, il cria vers le Seigneur toute la nuit. Sa souffrance. Et il ne se réjouit pas hein, de voir l'autre descendre la pente là sur son toboggan. Il crie au Seigneur toute la nuit. C'est un bon réflexe, parce qu'en fait c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas la sienne. Et combien de fois, quand nous traversons des souffrances, crions-nous vers quelqu'un ou sur quelqu'un au lieu d'aller vers Dieu? On peut se poser la question. Hein, quand on se traverse des difficultés, des souffrances, est-ce que ce n'est pas plus facile d'aller crier sur quelqu'un d'autre que de crier à Dieu toute la nuit? Est-ce qu'on n'a pas tendance à crier sur nos amis chrétiens? Le pasteur, non, vous êtes gentil avec nous, ça va. Mais sur d'autres gens, hein, plutôt que de crier à Dieu. Je trouve que Samuel a une attitude que j'admire. Il est ému, bouleversé, en colère, tout ça se mélange dans sa tête et toute la nuit, il va crier au Seigneur dans la prière. Et combien de gens ont été blessés par des mauvaises autorités, vont au contraire se venger et s'opposer à toutes les autorités, même inconsciemment, au lieu de crier à Dieu. Hein, c'est ce qu'on traite dans le TQP d'ailleurs, hein, c'est ce genre de problème. Samuel aurait aussi pu tourner sa colère et sa déception contre le peuple. Ah oui, alors là je lui aurais donné raison, hein, parce que là le peuple il abuse. Hein. Là le peuple il abuse. Il a demandé un roi, on lui a donné un roi, et il entraîne le roi, en tout cas ça a l'air d'être le cas, Saül et le peuple épargnèrent Agag. Hein, Agag. Donc, le peuple, il était aussi fautif dans cette histoire. Mais Samuel aimait ce peuple qu'il avait dirigé pendant des années. Le peuple appartenait à Dieu et c'est donc vers Dieu qu'il va se tourner toute la nuit. On va s'arrêter là. Donc je pense que quand on traverse des difficultés comme ça, comme Samuel, pensons à nous tourner vers Dieu. Crier à Dieu toute la nuit plutôt que de crier sur les gens. Même si ça soulage sur le coup hein, de crier sur les gens. On a l'impression qu'on fait quelque chose. Mais crions à Dieu. Crions à Dieu devant les difficultés. C'est plus efficace. C'est plus sage. Et je pense que c'est ce qui va donner le courage à Samuel après. Vous avez vu, le lendemain, de bon matin, il a pu partir. Il avait vidé son cœur, il avait vidé toute sa rancœur, son amertume, son chagrin, sa colère. Il avait déversé tout ça au Seigneur. Et le matin, il va pouvoir rencontrer Saül. Et on va être surpris quand on va voir ce texte la fois prochaine. Il ne se fâche pas une seconde. Il pose des questions comme Dieu. Adam, qu'est-ce que tu as fait? Où tu es? Et c'est la même chose. Il pose des questions. Il arrive à rester calme et sage. Parce qu'il avait déversé tout à Dieu avant. Donc voilà, je vous encourage à faire ça aussi. Et moi aussi.